s'agit de défendre la langue française en France, il faut d'abord la défendre sur le plan de la qualité. Je dis d'abord, et surtout et essentiellement. Il est évident que si les Français veulent ensuite que leur langue se répande à l'étranger, soit parlée par le plus grand nombre possible d'habitants de la planète, il faut qu'ils fassent une langue pure, une langue en même temps commode. Vous me direz qu'ils la fassent, elle est déjà faite, alors qu'ils la préservent des impuretés et en même temps qu'ils la simplifient. Je pense que bien défendre la langue française en France, c'est aussi lui permettre d'être un élément de commerce, aussi bien économique que culturel, entre les hommes. Donc il faut que la langue française accepte peut-être certaines réformes de l'orthographe pour être bien défendue. On ne défend bien que ce qui est défendable.
Dans l'actualité des idées aujourd'hui, parler, lire, écrire, trois moteurs au fondement de la démocratie, comment les bien défendre ou comment les défendre bien. Il publie aujourd'hui Voyage au pays des bibliothèques chez Stock avec l'inspecteur général des affaires culturelles Noël Corbin, fruit d'un rapport remis l'an passé au gouvernement, où il rappelle que la lecture n'est pas un petit morceau de savoir, elle est la condition de l'accès à toutes les connaissances. Voilà pourquoi pour lui, ouvrir plus les bibliothèques, c'est agrandir la vie. Notre invité, l'écrivain et académicien Éric Orsenna, membre du Haut Conseil à la francophonie, auteur entre autres de La grammaire est une chanson douce, mais aussi de La Fontaine, une école buissonnière. Bonjour à vous Éric Orsenna.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. À mes côtés, Aurélie Marciro, rédactrice en chef adjointe du nouveau magazine littéraire, qui consacre ce mois-ci son dossier de une à la langue française, amours et guerres. On va reparler des batailles de l'orthographe, de la question de la féminisation, mais aussi du rôle de l'Académie française. Et si d'ailleurs on commençait par ça, Éric Orsenna. Bonjour Aurélie Marciro, pardon.
Bonjour.
Fauteuil vide, élection blanche, pourquoi est-il si compliqué de remplacer Jean d'Ormesson, Simone Veil, Max Gallo, Michel Déon? Ce ne sont pas les candidats qui manquent, mais les bons candidats?
Non, les candidats sont très bons. Encore faut-il qu'ils ne soient pas présentés en même temps, sur, comme on dit, le même fauteuil. Quand vous avez trois candidats excellents sur un même fauteuil, évidemment, les votes se dispersent et nous aboutissons à ce qu'on appelle de façon assez, au fond, insupportable, une élection blanche. Et donc, parmi tous ces gens qui se sont présentés ces derniers temps, je ne vais pas citer de nom, mais tous avaient leur place à l'Académie. Simplement, il faut un peu répartir les candidats en fonction des opportunités. Voilà, c'est tout. C'est une affaire de gestion des candidatures. Mais il y a des tas de gens qui se présentent et qui sont formidables.
On se demandait toutes les deux, avec Aurélie Marciro, quelles sont les qualités requises pour être académicien?
D'abord, l'Académie française est différente de l'Académie Goncourt, c'est-à-dire qu'il n'y a pas uniquement des écrivains. Il y a les gens les plus divers, parce que la langue rassemble des compétences qui sont pas seulement littéraires. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir un ancien chef d'État, c'est intéressant d'avoir un prix Nobel de génétique, c'est intéressant d'avoir un historien, c'est intéressant d'avoir un avocat, c'est intéressant parce que c'est ça qui, moi, m'intéresse beaucoup, c'est d'entendre leur point de vue. Alors, quand vous entendez François Cheng qui vous parle de la langue et le rapport entre le mot et l'idéogramme, c'est évidemment passionnant. Quand vous entendez Pierre Nora raconter l'histoire ou Marc Fubaroli, c'est évidemment quelque chose que vous n'entendriez pas à l'Académie Renaudot ou à l'Académie Goncourt.
Donc, on peut même au hasard imaginer avoir un comédien qui porte haut le verbe sans avoir jamais écrit un livre.
Mais pourquoi pas? D'ailleurs, nous n'avons personne représentant du cinéma. Depuis René Clair, il n'y a personne, alors que le cinéma porte la langue française. Moi, je rêverais qu'il y ait des chanteurs. Moi, j'ai aimé la langue française grâce aux chansons. C'est les chansons. On sait que Charles Trenet a été refusé, ce qui est pour moi complètement hallucinant. Et donc, je voudrais qu'il y ait des rappeurs, des slameurs. Je voudrais que Grand Corps Malade entre à la Comédie Française. J'étais à la Comédie Française, vous voyez. Oui, c'est pareil. Oui, mais au fond, c'est pareil. C'est pas loin et c'est pareil. Vous voyez, j'ai fait une émission récemment avec Corneille, qui est rwandais, qui vit au Québec. Il a fait un texte absolument magnifique sur l'ensemble, sur l'amour. Et donc, voilà, c'est que la langue vive, vous voyez, c'est pas un patrimoine fermé.
Non, mais ils sont un peu jeunes tous, quand même, pour intégrer l'Académie Française.
Non, moi, hein. Je suis entré à 50 ans. Corneille, il va arriver. Hein.
Il y a une question qui traverse le dossier qu'on consacre à la langue française, c'est à quoi sert l'Académie? En fait, vous venez un peu de répondre à ma question. Pascal Bruckner dit que ça doit être un lieu de résistance. Pour vous, l'Académie française, visiblement, n'est pas un lieu de résistance.
Non, alors pour moi, ce n'est pas un lieu de résistance, c'est le lieu de rappeler quelques éléments de base qu'on oublie, c'est-à-dire que c'est vrai que la langue est compliquée, mais comme la musique. La langue et la musique, alors on peut dire, bon, on va supprimer le solfège, ou on va supprimer trois notes. On va supprimer trois notes, on va supprimer le fa, le ré bémol, et puis on va supprimer le si dièse. Et puis voilà, qui est d'ailleurs pas loin d'être un do. Et donc on va arriver, voilà, donc il y a rappelé un certain nombre de difficultés qui donnent la richesse. Vous savez, la langue française, en tant que langue française, elle a 12 siècles. Et 12 siècles de création à tous les niveaux de la société, depuis les brèves de comptoir jusqu'au roi, il y avait toutes les sociétés. Et c'est vraiment une œuvre commune, donc c'est évidemment complexe. Et donc quand on diminue cette complexité, on diminue la capacité à dire le monde. C'est comme si on disait on va diminuer les mathématiques pour rendre les choses plus simples, on aura un moindre regard sur le monde. C'est ça ce que je veux dire.
Aurélie Marcillon. C'est vrai que la langue est sacrée, hein. Parler du français, c'est comme parler de l'équipe de France de football, tout le monde a son avis, on se déchire là-dessus. Je voulais juste vous citer cette phrase de l'interview de Jean-Luc Mélenchon, qui nous donne une grande interview sur
qui est un grand lecteur. Hein,
qui est un grand lecteur, effectivement, et il nous dit « Je fais des fautes, je le dis, pour aider ceux qui en font et qui du coup hésitent à écrire. Je suis malheureux qu'on s'interdise d'écrire parce qu'on craint d'être déprécié par ses fautes. Est-ce qu'on n'a pas tous collectivement une responsabilité avec cette hystérie autour de la faute de français, justement, avec tous ces gens qui, comme pour les bibliothèques, disent « c'est pas pour moi ».
Alors, moi, ma bataille, c'est le « c'est pas pour moi ». Ça, c'est clair que entendre cette phrase, c'est pas pour moi, la danse classique, c'est pas pour moi, la musique, c'est pas pour moi, la langue française, c'est pas pour moi, c'est insupportable. Voilà. Maintenant, il faut pas non plus se glorifier de l'ignorance. C'est des questions de grammaire, parce que c'est des questions de sens. Mais autrement, il y a tellement d'arbitraire dans la langue française qu'on peut très bien avancer un peu et dire que cette faute-là n'a pas beaucoup d'importance. Je vais vous dire très franchement, le redoublement des consonnes, moi je m'en fous. Mais qu'on abandonne des choses qui donnent une richesse et une profondeur à la langue. Par exemple, l'accent circonflexe, moi je trouve ça très dommage parce que l'accent circonflexe, ça remplace un S disparu. Et donc, forêt, c'était forêt comme dans forestier. Et donc, moi j'aime bien ce genre de choses. On peut très bien supprimer, on pourrait supprimer ce mode qui est en même temps un temps du futur antérieur. Mmh. Futur antérieur, parce que c'est compliqué. Qu'est-ce que ça veut dire quoi, un futur antérieur? Un futur du passé. Mais c'est merveilleux comme invention. Et quand on fait le bilan de sa vie, et il y a ce vers incroyable d'Aragon qui parle à son vieux copain stalinien Neruda, et il raconte ses rêves passés, et il dit « Aurons-nous au mieux été, enchanteurs désenchantés, d'avoir chanté pour or le cuivre ?»
Bernard Pivot, dans le magazine nous parle du parti passé. Alors, il est assez mitigé sur la réforme qu'avaient proposée les deux professeurs belges en septembre dernier. Et il nous dit, mais que donnerait Proust après une réforme du parti passé? Vous, qu'est-ce que vous en pensez de la réforme du parti passé?
Écoutez,
c'est très compliqué, essayer d'expliquer à un enfant.
En fait, il comprend assez bien. Moi, je me souviens avec mes enfants, je leur avais dit, écoutez, il y a 10 règles. Si vous apprenez ces 10 règles, vous supprimez, comme disait Mélenchon, les 3/4 des fautes. Donc, c'est normal qu'il y ait un peu de règles. Il y a des règles dans la musique, il y a des règles dans le foot. Vous savez, je vais souvent dans les classes de toutes sortes, du primaire et du secondaire et partout. Et alors, il dit « Ah, c'est compliqué, monsieur, c'est compliqué le français, c'est compliqué le français. » Je lui dis « comme le foot, c'est compliqué. »« Ah bon, comment c'est compliqué ?»« moi, j'ai une solution, hein. Tu mets les mains. »« Ah, c'est plus le foot. » Je lui dis « ça va, la langue française, si tu auras plus simple, c'est comme mettre les mains au foot. » Ça s'appelle le rugby, c'est plus le français, c'est autre chose.
Éric Orsena, l'Académie a longtemps donné le là en matière de grammaire, d'orthographe, de rhétorique aussi à sa naissance. Aujourd'hui, à quoi sert-elle l'Académie française, maintenant qu'il y a des commissions d'enrichissement de la langue, maintenant que des dictionnaires sont édités par toutes les grandes maisons d'édition, à quoi
sert
l'Académie?
C'est une illusion de croire que l'Académie a toujours donné le là. C'était une instance qui
n'a jamais servi à rien. Alors.
Si, mais c'est comme France Culture. À quoi sert France Culture? À quoi sert France Culture? Donc, vous n'avez pas le monopole de la culture. Nous n'avons pas le monopole de la langue. Donc il y a un endroit, France Culture, où on dit que c'est pas inutile d'aller un peu plus loin dans le savoir, d'aller un peu plus loin dans l'émerveillement, d'aller un peu plus loin dans la rencontre, d'aller un peu plus loin dans l'écoute. C'est la même chose.
Mais nous, on essaye de le partager. Vous, avec qui vous partagez ce savoir, ces connaissances ?
On partage avec les gens qui consultent notre site, puisque maintenant on a un site. Il y a énormément de liens qui sont faits avec un site qui s'appelle « Dire et ne pas dire ». C'est-à-dire, c'est pas simplement une condamnation, c'est dire qu'il y a une précision là qui est dite qui, au fond, permet de s'exprimer mieux. Vous pouvez très bien faire en sorte d'avoir que 400 mots. Mais qu'est-ce que vous aurez gagné à partir de là ? Donc c'est exactement comme ça. Donc nous servons à avoir une sorte de référence, on en fait ce qu'on veut, et vous savez, nous sommes extrêmement attentifs à l'usage. Et il serait idiot de continuer à dire c'est insupportable d'entendre Madame la ministre. Il se trouve que la ministre s'est entrée. Alors il y a un certain nombre de ministres femmes qui préfèrent toujours dire « le ». Parce que la langue, et c'est ça qu'il faut se souvenir de ce genre de choses, la langue française a immensément de talent, mais pas tous. Par exemple, elle confond l'homme, qui est l'espèce humaine, et puis le mec. C'est-à-dire, en latin, homo et vir. Il y a l'homme. Et donc, on dit l'homme, ben, ça ne veut pas dire que ça exclut les femmes, si on prend le grand H. Mais ça veut dire évidemment. Donc, c'est insupportable. Donc, c'est assez compliqué. Donc, c'est un lieu un peu complexe qui rappelle deux, trois éléments et qui dit, qu'est-ce qu'on perd si on abandonne ? C'est ça l'affaire. Qu'est-ce qu'on perd si on abandonne ? Donc, si on simplifie, bien,
et on
simplifie
la vie. Qu'est-ce qu'on gagne si on évolue ?
Oui, mais ce qu'on gagne si on évolue, tout à fait, absolument.
Question sous-jacente.
Mais c'est pareil. Qu'est-ce qu'on gagne comme temps si on arrête de lire ? Qu'est-ce qu'on gagne comme temps ? Et ça veut dire quoi, ce temps gagné, qui veut dire qu'on a perdu ? Puis un autre élément qui est quand même assez important dans notre civilisation, c'est la question de l'effort. C'est-à-dire qu'on doit consommer tout de suite. Et c'est là où je reviens à la lecture. C'est que la grande différence entre la lecture et la consommation d'images, c'est que quand vous avez une image, le film vous est offert, vous l'avalez. La lecture, vous faites le film. Quand vous lisez un livre, nous trois, le même livre, on ne le lit pas de la même manière. Pourquoi ? Parce que chacun fait son film. C'est ça la différence, c'est ça l'action, c'est ça la pratique.
Usage, féminisation, égalité, inégalité dans la langue. Vous avez ouvert la discussion, Éric Orsenna. Je vous propose d'écouter, avant de vous redonner la parole, Aurélie Marciro, les mots de la chercheuse Aurore Evin autour du mot autrice qu'elle est allée exhumer au XVIIe siècle. Elle nous raconte l'importance de ce mot.
En allant dans les archives de la Comédie française du XVIIe siècle, les registres de contes de Lagrange, le comédien de Molière, je découvre ce petit mot autrice, donc part d'autrice au lieu de part d'auteur. Et là, je me dis, ah, mais c'est le mot qu'il me faut, c'est le mot que je cherche, justement. Et je commence, et je le retrouve dans l'usage, dans des périodiques, etc. Et du coup, je commence à faire défiler l'histoire de ce mot, et je découvre que ce mot existe depuis l'Antiquité, et que depuis l'Antiquité, on lui fait la guerre. Dès l'Antiquité, on essaye de circonscrire le sens d'autrice, hein, c'est-à-dire qu'on a déjà un grammairien en latin qui nous explique que auctrix, quand il dérive du verbe augere, donc augmenter, accroître, etc., on peut l'utiliser au féminin, mais qu'on ne peut pas l'utiliser au féminin quand il est au sens de auctoritas, c'est-à-dire source, origine, etc., et que là, il faut recourir au latin auctor. Donc tout est dit finalement. Hein. Voilà, ça va être repris comme ça. Donc on va dire, voilà, quand on est assistante, on peut se dire autrice, mais quand on est origine, source, non, on doit se dire auteur en parlant d'une femme. Sauf que bon, s'ils ont eu besoin de faire cette règle, c'est peut-être sans doute qu'il y avait des femmes déjà qui se disaient autrices au sens d'origine de créatrice. Et effectivement, quand les premières écrivaines professionnelles, enfin qui commencent à gagner leur vie avec la profession d'écrire, notamment, on a Marie de Romieux au XVIe siècle, Marie de Gournay juste après, vont utiliser le mot autrice et vont être appelées autrices. Et les femmes dramaturges, les autrices de théâtre du XVIIe, Madame de Villedieu, Catherine Bernard vont être nommées autrices.
Aurore Evin, à la Fabrique de l'Histoire, vous, Henri Corsena, vous êtes pour redonner droit de cité au mot autrice, par exemple.
Pourquoi pas. Mais comme écrivain, parce qu'on disait écrivaine, c'est mot, c'est très laid, parce qu'il y a veine, mais vin, c'est aussi nul que veine. Écrivain, écrivaine, pourquoi pas. On va voir, au bout d'un moment, qu'est-ce qui va être retenu. Est-ce que, parce qu'il y a des femmes qui préfèrent dire écrivain. Comme vous savez, il y avait HEC jeune fille. Ben non, HEC, c'est HEC. Donc que ça soit. Voilà, donc pourquoi pas.
Qu'est-ce qui va être retenu par qui?
Pourquoi pas? Non, mais par l'usage.
Par l'usage.
Par l'usage. C'est une l'usage, vous savez, c'est
Aurélie
ça l'usage.
Marciro.
C'est l'usage qui gagne à la fin. Toujours.
Mais l'Académie a son mot à dire. Dans notre magazine, deux jeunes femmes, une réalisatrice et une journaliste, écrivent à l'Académie française, à ses membres, en leur disant l'accord de proximité ou la féminisation des noms de profession, ça ne va pas mettre en danger la langue française. Elles vous demandent de franchir le pas et on attendait une décision début février qui a été repoussée. Est-ce qu'on en prend le chemin? Est-ce que l'Académie française va dire,
il y a un travail qui est fait, avec Michael Edwards, donc c'est intéressant parce qu'il est évidemment prof de littérature française, c'est un anglais, et donc il y a toute une équipe autour de lui qui va rendre ses conclusions qui sont pas si simples que ça. Et le pas est fait, et son mot à dire, mais c'est les pas à faire et ses mots à dire. Et donc, ça sera un des éléments du débat. Donc, rendez-vous dans un mois sur cette affaire.
L'Académie va entériner l'usage.
Non, mais c'est pas l'usage, parce que l'usage n'est pas répandu de façon générale. Vous savez, si vous faites un sondage qui n'a jamais été fait, entre les femmes qui écrivent, celles qui veulent se faire appeler écrivain, écrivaine ou autrice, c'est pas évident que vous auriez des résultats. C'est pas évident. C'est pas si simple que ça.
Quels sont exactement les termes du débat et l'objet du rapport qui va être rendu?
C'est la féminisation des titres.
D'accord.
C'est de manière générale. Parce que ce que j'ai dit précédemment, en prenant l'exemple du mot homme, c'est qu'il y a un neutre implicite. Et que la fonction, normalement, devrait pas être liée à un genre. Ce qui serait meilleur, bien sûr. Puisque c'est pas un genre. C'est pas parce qu'elle est femme qu'elle a ce rôle-là, c'est pas, etc. Donc, ça serait mieux que ce neutre, mais comme ce neutre implicite au fond n'existe pas, eh bien, on va sûrement féminiser. Mais encore une fois, c'est l'usage qui décidera la fin. Et il y a des femmes qui supportent pas quand on leur dit Madame la ministre. J'appelle moi systématiquement les ministres femmes Madame la ministre et je suis repris une fois sur deux en disant Madame le ministre parce qu'elles considèrent que c'est une sorte de déclin en disant la ministre, ce qui n'est pas mon sentiment.
On entendait le recteur Robert Mallet en 65 en ouverture de l'émission dire on ne défend bien que ce qui est défendable. Vous avez toujours défendu, Eric Corsena, une approche ludique plutôt que technique de la langue. Sur cette question de la féminisation, vous défendez la même approche.
Mais je défends cette approche de si tu veux, c'est pas défendre, c'est donner envie. C'est donner envie et que la langue dise la réalité des choses. Moi, je pense qu'il est, par exemple, dangereux de dire, au lieu de sourd, un malentendant. Donc, ce genre de choses-là, ça veut dire que...
C'est pas la même chose en même temps.
Oui, non, mais c'est pas la même chose, mais à un moment donné... Il faut quand même appeler les choses par leur nom. Et donc, on est dans l'édulcoration. De cette manière-là, la langue est de moins en moins concrète. Il y a un moment qui m'a énormément frappé. C'est dans l'illusion comique de Corneille. À ce moment de la langue française est très concrète, sensuelle, rocailleuse. Et puis après, à cause de l'Académie en partie, mais à cause de tous ces mouvements, elle est devenue plus abstraite et beaucoup plus correcte, politiquement correcte. Et moi, j'aime que la langue dise les choses, même si c'est incomplet. Et que chaque mot ne soit pas issu d'une commission de 20 spécialistes.
Une grande table à mi-parcours avec notre invité aujourd'hui, l'écrivain académicien Eric Orsena, à l'occasion de la parution de cet ouvrage signé à deux mains, Voyage au pays des bibliothèques chez Stock, avec l'inspecteur général des affaires culturelles Noël Corbin, et à nos côtés aussi Aurélie Marciro, rédactrice en chef adjointe du nouveau magazine littéraire qui consacre son dossier du mois à la langue française.
France Culture. La grande table, Olivia Jesbert.
Eric Orsena, vous voulez me reprendre? J'ai fait une faute de français.
Mais pas du tout, au contraire.
Vous dites que des choses.
Vous dites que des choses d'une fertilité absolue et d'une pertinence totale.
Avant de parler des bibliothèques.
Simplement, oui, parce que il y a un autre débat avec l'Académie française, et je suis extraordinairement minoritaire, voire seul. C'est les langues régionales. L'Académie française est opposée aux langues régionales. Et moi, je suis favorable aux langues régionales. L'Académie française pense qu'il y a une seule langue en France, c'est le français. Eh bien, c'est pas vrai. Donc il y a une langue qui est ce français magnifique, mais il y a aussi d'autres langues. Il se trouve que je, et là, je ne sais pas parler le breton, mais je me fais traduire le breton. Et bien souvent, le breton, où je vis une grande partie, la Bretagne, où je vis une grande partie de la vie, raconte mieux la réalité que le français pour aborder des tas de choses qui concernent la Bretagne. Donc, ce genre de choses, et ça montre bien d'ailleurs que des gens qui ont plusieurs langues, en fait, ont des meilleurs résultats.
Alors vous défendez les langues régionales, vous défendez aussi la francophonie, puisque vous faites partie du Haut Conseil de la francophonie. Une question à ce sujet, Aurélie.
Oui, l'écrivain Gauze, qui est
l'auteur de Camarade Papa.
L'auteur de Camarade Papa, exactement, qui est pour le métissage et pour une vitalité de la langue française, note, et on l'oublie souvent, qu'il y a plus de locuteurs du français hors de l'hexagone que dedans. Est-ce qu'on en fait assez pour la francophonie, selon vous, et notamment pour l'apprentissage du français?
Alors, plein de choses dans vos questions. Premièrement, la francophonie. Moi, je fais mon marché de français dans les inventions francophones. Mmh. Donc, je vais en Belgique, je vais en Suisse, je vais là, je reviens du Niger, où je trouve des formules ou des manières d'exprimer incroyables. Par exemple, j'étais au Niger et je voulais aller au lac Tchad, où il y a Boko Haram. Et il y a une manière de parler que nous n'avons pas. Et le ministre de la Défense qui me propose une escorte dit « Je garantis de sécuriser l'écrivain ». Donc ce genre de choses, moi, il y a une sorte de liberté comme ça qui est là. Donc c'est ma manière. Donc la première chose, c'est la vitalité du français vient de l'extérieur. De la même manière que la vitalité de l'anglais, c'est pas Oxford et Cambridge, c'est le Pakistan, c'est Népal qui venait des Caraïbes. C'est tout ce mouvement-là qui, ça vient de la périphérie qui nourrit ça. Première chose. Deuxièmement, l'enseignement du français. Mais pas seulement du français, langue étrangère, le célèbre FLE. C'est-à-dire que le français doit être considéré comme évidemment un élément de savoir, mais pas comme un élément de seule technique. J'ai vu ça en économie. On a retiré l'histoire et la géographie pour en faire une science dure. Donc on a fait les mathématiques, qui a donné toutes les dérives des finances, et au lieu de dire que évidemment il y a des rapports humains là-dedans. Et ce que j'ai vu, moi, en classe de 6e, c'est pour ça que j'avais écrit « Ma petite grammaire est une chanson douce », c'est que on retirait le plaisir, on avait un cadre, mais à partir de là, on retire de ça, c'est pas, et on dessèche pas. Il y a le plaisir qui est là, et surtout, il y a la pratique. C'est-à-dire la rédaction, c'est-à-dire raconter les choses, le narratif en disant la pratique, c'est comme dans la musique. J'entends qu'on va avoir le pass pour aller dans vos concerts, très très bien. Mais moi, je préférerais qu'on donne la possibilité aux jeunes qui ne peuvent pas d'apprendre plus la guitare ou le piano.
Un pass culture qui serait concentré sur l'apprentissage plus que sur l'accès ?
Qui serait plus concentré sur la pratique, que sur la consommation. Encore une fois. Encore une fois, quand on dit pouvoir d'achat, je veux bien. Bien sûr, il y a des gens qui ont des difficultés énormes pour acheter le nécessaire. Mais l'achat n'est pas quand même l'ensemble de la vie.
Qui a dit, Eric Orsena, lire, c'est dialoguer avec son imagination, s'offrir des espaces de respiration, des moments d'évasion ?
Je suis d'accord.
Mais qui l'a dit, à votre avis ?
Je ne sais pas.
C'est Franck Riester, le nouveau ministre de la Culture. Voilà. C'était dans l'Obs, l'occasion de la 3e édition de la Nuit de la Lecture. Ajoutant à propos des bibliothèques, ce ne sont pas seulement des lieux de passage, mais aussi des lieux de brassage, pas seulement des lieux de visite, mais aussi des lieux de vie. Là, on se dit qu'il a plutôt bien lu votre rapport, ou en tout cas le résumé ou ses conclusions. Vous êtes parti en reconnaissance, je raconte pour ceux qui nous écoutent, à l'été 2017, et vous avez remis votre rapport sur les bibliothèques le 20 février de l'an passé, à la médiathèque des Mureaux dans les Yvelines. Emmanuel Macron a alors repris votre proposition phare, ouvrir davantage les bibliothèques le soir et le dimanche.
Il y a 7700 bibliothèques, 8800 points de lecture, et vous l'avez dit, 130 qui sont ouverts le dimanche. Il y a des tas d'endroits où ça n'a pas de sens de les ouvrir le dimanche. Il y en a beaucoup d'autres, je pense en particulier, Madame la Présidente, à la région qui vous est chère. Il y a d'évidence beaucoup d'endroits, au-delà de Paris intramuros, en petite couronne comme en grande couronne, où c'est utile d'ouvrir le dimanche et le samedi après-midi, parce que les gens ne peuvent pas accéder à la bibliothèque en semaine.
Voilà, un élargissement des horaires et aussi un élargissement des missions de la bibliothèque pour réduire les fractures culturelles et sociales. Après la reconnaissance, Éric Orsena, est-ce que vous avez fait le service après-vente? En somme, est-ce qu'un an après, vous êtes allé vérifier les changements mis en place? Si vos recommandations ont été suivies?
L'avantage de ce ministre de la Culture, c'est qu'il a été maire. Il a été maire 15 ans. Il a été maire dans la proximité, un peu lointaine, la proximité de Paris. Donc il sait ce que c'est qu'un lieu. Et c'est vrai que c'est pas seulement un lieu de livres. C'est un lieu où on se rencontre pour toutes sortes de choses. On apprend des langues, il y a un aspect, il y a une possibilité de wifi, il y a des associations sportives, etc., etc. Donc, et ce qui est très frappant, c'est qu'on aurait pu penser que c'était pas le cas, étant donné tous nos petits objets connectés, mais que depuis 2005, l'augmentation de la fréquentation, c'est plus 23%. Il y a 27 millions de Français et de Françaises, 27 millions de Français et de Françaises qui poussent chaque année la porte d'une bibliothèque et d'une médiathèque. Donc, ce sont des lieux. Donc, c'est des lieux de chaleur. Et, par exemple, ce sont des lieux rares dans nos villes, et notamment les petites villes, où on peut rencontrer des gens de classes différentes, mais d'âges différents. D'âges différents, parce qu'il y a des anciens qui sont là et qui prennent un café et tout ça, etc. Donc, c'est des lieux de chaleur. Donc, c'est ça qu'on a trouvé. Et alors, pour répondre à votre question, le service après-vente, le ministre actuel a fait aussi ce qui, j'ai nécessaire de faire. C'est-à-dire que grâce à la subvention qui a été vraiment décidée là par le président, aujourd'hui, 231 villes ont accru leur ouverture de plus de 8 heures, dont 60% dans des villes inférieures à 10 000 habitants, et qu'il y a 400 projets qui sont remontés et qui sont instruits en ce moment et qui vont être soutenus aussi par une subvention supplémentaire que le ministre a décidé. Donc, vous voyez, c'est ça. Moi, j'aime les responsables politiques qui ont aussi des implications locales précises, qui voient ce que c'est et que ça répond à quelque chose. Alors, la ville dont Franck Riester a été maire, avait 15 000 habitants. Donc, c'était un peu la limite entre les deux. Donc, c'est très, très passionnant. Et ce qui est intéressant, c'est que ce voyage au pays des bibliothèques, on a été dans 50 villes quand même, eh bien c'est aussi pas mal un portrait de la France.
D'ailleurs, vous mettez aussi en avant le Havre et sa médiathèque, le Havre, oui. La ville d'Édouard Philippe et sa médiathèque Oscar Niemeyer, ouverte 54 heures par semaine du mardi au dimanche, et tête de réseau d'un dispositif Lire au Havre qui se développe dans tous les quartiers de la ville, racontez-vous. Donc parmi les bons élèves, on trouve l'ancienne ville commune de Franck Riester.
Depuis longtemps, c'était un travail depuis longtemps.
Celle d'Édouard Philippe aussi.
C'est pas d'aujourd'hui ma passion.
Mais qu'est-ce que ça nous dit aussi de la place qu'il faut peut-être donner dans cette discussion, dans ce débat au maire?
D'abord, c'est une position clé. Je dis, il se trouve que moi, je travaille avec l'Association des maires de France depuis 5 ans, parce que j'ai vu leur travail en tant que conseiller d'État 5 ans. Et au dernier congrès des maires, devant 3500 maires, je leur ai dit, c'est vous qui tenez la Maison France. C'était un mois avant le début des Gilets jaunes. Qui tient et avec qui se noue le dialogue à l'occasion du grand débat? Avec les maires. Et là, moi, c'est vrai que le président, c'est mon ami, mais il y a plein de choses avec quoi je suis pas d'accord, et notamment là-dessus, c'est-à-dire cette conception de la France, où il y a quelqu'un qui est au sommet, et puis on parle directement. Non, la France, c'est un lieu de corps intermédiaires.
Alors, quitte à recréer de la disparité en fonction des sensibilités des maires pour les livres, pour la lecture, parce que c'est aussi à ça que vous allez vous confronter.
Alors, tout dépend des maires.
Tout dépend
des maires.
Parce
qu'il y a des maires qui n'en ont rien à foutre.
Exactement. Donc
ça,
on l'impose.
À ce moment-là, ça se présente dans le bilan. C'est-à-dire, ils veulent pas. Mais alors, on revient à ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est-à-dire que le « c'est pas pour moi », c'est insupportable. Mais il y a une logique du « pourquoi pas ». Parce que si la ville à côté, ils ont ouvert, on dit « pourquoi pas moi ?» Pourquoi pas moi? Pourquoi eux, ils l'ont fait alors qu'ils sont à 15 000 habitants et moi, j'ai 100 000 habitants et j'ai pas ouvert? Donc, c'est insupportable. Donc ça, c'est la responsabilité de l'équipe municipale est clé.
Alors, dans cet ouvrage « Voyage au pays des bibliothèques », vous insistez aussi sur la nécessaire souplesse dans l'application de ces recommandations. Les attentes précises varient selon les endroits, les âges, les activités. Vous rappelez que la France est diverse et que les mesures décidées depuis Paris pour l'entièreté du territoire manquent généralement leur objet et peuvent même brider la liberté d'initiative. Une question, Aurélie Marciro, sur ce voyage au pays des bibliothèques.
Vous avez également donc visité les bibliothèques en prison avec des sujets qui vous ont exaspéré.
Mais plus que ça, scandalisé. Fleury Mérogis. 4300 détenus. 4 bibliothèques formidables avec des gens incroyables. Et avec une association Lire, c'est vivant. Eh bien, on utilise ces 4 bibliothèques au quart de la capacité parce qu'il n'y a pas suffisamment de gardiens pour faire venir les détenus en bibliothèque. Qu'est-ce qu'on va faire si on n'a pas ce lieu-là de la prison pour lire? Et comment peut-on, entre guillemets, déradicaliser ceux qui ont eu quelques problèmes mentaux avant? Et c'est d'autant plus grave que cette association magnifique, Lire, c'est vivre, est en péril mortel, car elle a besoin d'une subvention du ministère de la Justice qui lui est refusée. Donc comment peut-on aider à la réinsertion si on se ferme à l'accès des accès qu'est la lecture? Je suis, en tant qu'ancien magistrat au Conseil d'État, furieux contre mon ancienne autorité de tutelle, la garde des Sceaux.
Pourquoi? Parce qu'on
Je
fait des économies.
Je dis la garde des Sceaux parce que, évidemment, enfin, c'est quand même la responsabilité. Comment peut-on imaginer
des économies de bout de chandelle
qu'on
ne
donne
des
pas une possibilité? Parce que, franchement, qu'est-ce que c'est que déradicaliser? C'est donner une espérance. Et si là, combien il y a de possibilités d'espérance quand on est en prison? Ben là, il y a cette possibilité d'espérance quand même. C'est ce qu'on appelle vraiment à la fois le réalisme et la véritable ambition humaine.
Les bibliothèques, ce sont des équipements culturels les plus fréquentés, vous nous le rappelez dans cet ouvrage, après les cinémas. C'est dire leur importance aujourd'hui. Mais on connaît assez mal l'histoire de nos bibliothèques. Comment ce maillage s'est-il construit? Comment il a été constitué, tissé?
C'est d'abord une dimension religieuse, puisque c'était proche comme ça des églises. Ensuite, ou en parallèle avec les universités. Et on s'est aperçu que les universités n'ont pas reçu suffisamment de crédit pour avoir des bibliothèques. Comparons les bibliothèques universitaires en France et à l'étranger. J'ai fait des études en Angleterre, aux États-Unis, les bibliothèques c'est ouvert tout le temps. Donc les maires me disent, pourquoi est-ce que j'ouvrirais moi ma bibliothèque? J'aurais que des étudiants. Donc il y a cette question aussi, un effort de l'État. Et il y a un effort de l'État qui est fait pour les bibliothèques dites universitaires. Donc vous voyez, il y a tout ce maillage qui s'est fait. Et puis petit à petit, les maires se sont dit, mais qu'est-ce que j'ai comme lieu, comme maison commune ouverte? Les cafés ferment, qu'est-ce que j'ai? Et ben, c'est pas complètement toujours une très mauvaise nouvelle que les cafés ferment, mais qu'est-ce que je fais? À quel endroit on peut se retrouver? Et ça, ce qui nous a aussi beaucoup frappé, c'est la création architecturale. Parce que dans les grandes ou les petites, vous avez allé à Brest, et vous allez voir, à Vaux-en-Velin va ouvrir une médiathèque Vaux-en-Velin, qui est un lieu vraiment tendu. Eh ben, Vaux-en-Velin, la municipalité a choisi d'investir vraiment, et il y a un architecte magnifique qui s'appelle Ricciotti, qui a fait le musée à Marseille, et vous allez voir des lieux, parce que c'est des lieux qui favorisent la rencontre.
Voilà, d'où l'idée.
Allez à Brest, vous allez voir. En plus que ça soit l'ancien arsenal.
D'où l'idée, aujourd'hui, Eric Orsena, de conforter ce maillage, de le consolider pour répondre aussi à ce qui est évoqué par la crise des Gilets jaunes, la fracture territoriale, sociale et aussi culturelle. Une dernière question, Eric Orsena, si on incluait la culture dans le grand débat national, c'est pas le cas aujourd'hui,
non.
On peut le déplorer. Quelles seraient les bonnes questions à poser selon vous?
On peut, je le déplore.
Ouais, j'imagine.
Parce que qu'est-ce que c'est la culture, encore une fois? La culture, c'est le possible. C'est une affaire d'espérance. Ce sont des gens sans espérance. Ben, la possibilité, vous savez, il y a une possibilité, c'est de dire on va diminuer les dépenses. Et puis l'autre côté, c'est dire quelle est l'envie? Qu'est-ce que c'est la culture? La culture, c'est comme disait Johnny, qui est mon maître à penser, c'est-à-dire avoir envie. Et se dire, comme le dit Michel Lebris dans son livre formidable sur la lecture, c'est-à-dire la lecture, c'est quoi? C'est être plus grand que soi. Être plus grand que soi. C'est tout simplement. Donc France Culture est plus grande que la France.
Merci beaucoup Eric Orsena. Peut-être l'occasion de dire qu'on vous retrouvera probablement sur l'antenne de France Culture cet été.
Pour Marché.
Pour Beaumarchais.
Qui est quand même un formidable aventurier de la liberté.
Alors, merci beaucoup à vous. Voyage au pays des bibliothèques avec Noël Corbin vient de paraître chez Stock. Un grand merci à vous Aurélie Marciro de nous avoir accompagnés durant cette discussion. Le nouveau magazine littéraire est en kiosque le numéro de février avec à sa une langue française, amours et guerres autour de toutes les batailles de l'orthographe, de la grammaire, de la féminisation.
Et un très beau dossier sur Kafka.
Merci beaucoup.
L'épidémie de grippe est là. Pour éviter de l'attraper ou de la transmettre à votre entourage, des précautions simples peuvent être adoptées.
En cas de fièvre supérieure à 38 degrés, courbature ou grande fatigue, restez si possible chez vous et évitez les contacts avec les personnes fragiles comme les personnes âgées ou malades, les nourrissons et les femmes enceintes. Demandez conseil à votre pharmacien ou consultez votre médecin traitant si nécessaire. Ne vous rendez pas aux urgences sans avis médical et contactez le 15 uniquement en cas d'urgence. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé, de l'Assurance Maladie et de Santé Publique France.